France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé en cette journée qui marque le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, nous recevons deux invités dans le grand entretien du 7-10. Pascal Brice, président de la FAS, c'est la Fédération des acteurs de la solidarité. Emmanuel Domergue, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. La Fondation Abbé Pierre dévoile aujourd'hui son 29e rapport sur l'état du mal-logement en France, et il est alarmant, on va en parler tout de suite, comme du taux de pauvreté qui continue d'augmenter dans notre pays. Mais d'abord un mot chacun sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. Qu'en avez-vous pensé? Qu'en avez-vous retenu? A-t-il répondu à vos attentes, notamment dans le domaine social, Pascal Brice?
Écoutez, c'est une impression... je dirais troublante, pour pas dire violente, qui reste. C'est-à-dire que c'est un peu l'image qui est assez terrible, hein, qui m'est venue. C'est au fond un peu comme si ces millions de pauvres et de précaires dans ce pays, dont le nombre ne cesse de croître, on voit dans les distributions alimentaires, dans les rues, etc., avaient été laissés dans un trou noir, invisible, d'où on ne les a sortis dans ce discours que pour les livrer en pâture à la crise d'une partie des classes moyennes, qui est une réalité, hein, on y reviendra. Et tout ceci en expliquant que ce sont des gens qui se plaignent, semble-t-il, qui reçoivent le RSA sans travailler. Et donc, si vous voulez, du point de vue de ce qui se vit dans le pays, pour ces millions de personnes en pauvreté et en précarité, pour les travailleurs sociaux et travailleurs sociaux, les bénévoles dans les associations. Vous savez, récemment, une travailleuse sociale à Nancy me disait dans l'une des associations, on n'en voit pas le bout. Et j'ajoute que les associations sont à bout. Et donc, quand vous avez ce discours-là, ça laisse perplexe et inquiet, d'autant plus qu'on est dans une période, il y a eu cette loi immigration qui en a rajouté sur le plan du trou. Il y a vraiment un risque de bascule, de stigmatisation, et j'ai peur que là, on se trompe à vouloir penser que la crise d'une partie des classes moyennes, qui est une réalité...
On va y revenir, la crise des classes moyennes.
Mais vous n'allez pas la résoudre en tapant, en enfonçant les pauvres et les précaires chaque fois un peu plus pour motif qu'ils ne travailleraient pas, etc.
Manuel Demergue, est-ce que vous partagez le même sentiment, le même ressenti que Pascal Brice en ayant écouté Gabriel Attal?
Le même ressentiment, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des annonces pour relancer la production de logements, pour parler aux personnes mal logées, des 4 millions de personnes mal logées. On a eu des attaques contre le logement, des attaques contre le logement social. Et c'est juste la suite des attaques multiples depuis 2017, avec notamment cette remise en cause, hein, de l'esprit de la loi SRU, en faisant... entrer dans les quotas à respecter. Vous savez, les communes doivent atteindre 25% de logements sociaux. Et maintenant, on va faire entrer les logements intermédiaires, qui sont des logements pour les classes moyennes supérieures. On ne parle pas des instits, des pompiers, etc. On parle des cadres. Et donc, répondre à la crise du logement, aux personnes à la rue, aux personnes qui sont bloquées dans l'hébergement, en surpeuplement, en faisant du logement intermédiaire comme la seule priorité, c'est complètement à contre-courant des vrais besoins des personnes qui attendent un logement social.
Une fois de plus, on va parler des classes moyennes, puisque c'était c'est vraiment sur ça qu'il a voulu
le cœur de
son discours de politique générale. Mais on vous a invité ce matin pour parler de la pauvreté. Le tableau général de la pauvreté en France, selon l'INSEE, le taux de pauvreté a augmenté de 0,9 points pour s'établir à 14,5% de la population en France en 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a 9 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Pascal Brice, la pauvreté s'installe, elle augmente. Et on préfère regarder ailleurs.
Oui, elle s'enracine. Ça fait 30 ans que ça ne baisse plus, hein, la pauvreté en France. Elle s'enracine dans les quartiers des villes, dans les campagnes, chez les jeunes, chez des personnes âgées, chez des femmes, chez des personnes étrangères. Et donc, moi je voudrais à nouveau dire que collectivement, dans la période Covid, notamment le gouvernement et les associations ont fait le nécessaire pour éviter l'explosion de la pauvreté. Mais là, vous le savez, avec la hausse des prix, notamment de l'alimentation et de l'énergie, ça repart, et partout, dans les distributions alimentaires, dans les centres d'hébergement. Donc, cette pauvreté, elle est là, elle s'enracine, elle s'installe. Il y a une espèce d'accoutumance à ces réalités-là. Et c'est un peu l'image que donne le discours du Premier ministre de ce point de vue-là. Une sorte de conviction qui s'installe, je le crains aussi, qui est de dire, bon, au fond, on va vers le plein emploi, même si on va y revenir, là, ça paraît un peu plus compliqué, mais la perspective est ouverte. Et donc, au fond, ça va résoudre à soi tout seul la question de la pauvreté et de la précarité. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose, et à un moment où les associations, face à cela, sont de plus en plus démunies. Pourquoi ? Parce que les besoins augmentent, avec des formes nouvelles. Vous avez notamment des problèmes de santé mentale qui ont des implications de plus en plus fortes. Vous avez des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance qui sont dans les rues. et un climat.
Pour le coup, il en a parlé, Gabriel Attal, la santé mentale et des jeunes dans la rue.
Oui, mais vous voyez, le problème, c'est aussi le climat. Que me disent les travailleurs sociaux et les travailleurs sociales dans ce pays, dans les associations et les bénévoles ? Ils disent, on est engagés, on est là. Et moi, je veux le redire, et la Fondation Abbé Pierre, Manuel, en sont une nouvelle démonstration aujourd'hui avec ce on est là, et on lâchera pas. Mais ce climat, mais qui n'est pas que le fait du gouvernement, qu'on voit dans la société, c'est pour ça qu'il faut que chacune et chacun prenne la mesure de ce qui se passe. Ce climat qui veut que, au fond, les pauvres et les précaires sont responsables de ce qu'ils vivent. Que peut-être même ils sont responsables que de ce que certains qui travaillent n'y arrivent plus, et notamment les étrangers parmi les pauvres et les précaires. Ce climat, il pèse quotidiennement par des paroles, par des propos, par le défaut de moyens de l'action sur l'action de nos associations. Et moi, je veux vraiment alerter sur ce risque d'affaissement de la capacité du pays, notamment dans le mouvement associatif, à faire face à des défis qui restent majeurs sur le plan de la cohésion et de la lutte contre la pauvreté.
Manuel Domergue, il y a deux jours, on recevait à ce micro Jean-Luc Tavernier, le patron de l'INSEE, qui disait que la France tenait bon, mieux que l'Allemagne, qu'un filet de croissance s'était maintenu, que le moral des ménages s'améliorait. C'est le patron de l'INSEE. Ces chiffres n'étaient pas faux, mais en même temps, la réalité qu'on décriait là montre qu'il y a deux France, c'est la question que je vous pose, et un gouffre au milieu.
Oui, puis quand on regarde les chiffres de l'INSEE en 2021, il y a eu 500 000 personnes pauvres de plus qu'en 2020. Mais c'est en 2021, c'est pas aujourd'hui. Depuis 2021, qu'est-ce qui s'est passé ? L'inflation, la hausse des prix alimentaires, la hausse des prix de l'énergie. Et les premiers indicateurs plus récents qu'on voit sont très alarmants. Les personnes qui ont froid chez elles, ça c'est une privation vraiment concrète qui est douloureuse.
On était à 14... prix de l'énergie étant
le prix de l'énergie, ça maintenant ça se reporte avec un peu de retard parce qu'il y a eu le bouclier énergétique, mais maintenant c'est en train de toucher les ménages pauvres. Les personnes qui avaient froid, c'était 14% en 2020. Aujourd'hui, on est à 26%. On n'avait jamais connu une augmentation aussi forte. Alors que le mouvement naturel, c'est quand même depuis des décennies d'avoir des logements plus confortables. Et bien, à cause des prix de l'énergie et de la précarité, de la pauvreté, beaucoup de personnes se privent de chauffage ou sont en impayés. C'est ça aussi qu'on voit depuis quelques mois, la hausse des impayés de loyers et des impayés de charges en copropriété. Ça, c'est très mauvais pour l'avenir. Une copro qui n'a plus d'argent pour payer l'entretien, les travaux de réhabilitation, c'est une copro qui va se dégrader pour les prochaines décennies.
Et puis, on vous a invité aussi parce qu'on est 70 ans aujourd'hui, précisément après le 1er février 54, quand l'abbé Pierre lançait son appel après la mort d'une sans-abri. Mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit. Eh bien, on continue de mourir dans la rue en France, puisqu'on est le 1er février et 25 personnes sans-abri sont mortes depuis le début de l'année, selon le collectif Les Morts de la Rue. 25 personnes en un mois continuent de mourir
dans la rue
en France.
C'est extrêmement choquant et c'est pas lié au mois de janvier 2024. Hein. Le collectif des Morts de la Rue montre qu'il y a 2 personnes par jour en moyenne chaque année qui meurent de la rue. Ça peut être de froid, ça peut être de chaud. En fait, ils meurent de la rue, de l'isolement, de la violence de la rue. Et ça, Gabriel Attal n'a pas eu un mot pour ces personnes qui sont évidemment les plus en difficulté. C'est le scandale des scandales. Et ce qu'on voit, qu'on ne voyait pas il y a quelques années, c'est des enfants à la rue. Pas simplement parce qu'on cherche une solution pendant 2-3 jours, mais des enfants qui dorment dans la rue, sous une tente avec leurs parents, pendant des semaines, des mois, et qui sont hébergés non pas par l'État, mais par des parents d'élèves, des enseignants. Ça, c'est absolument scandaleux. Et quand on compare avec la France de 1954, au moment où l'abbé Pierre a lancé son appel, on est un pays qui est beaucoup, beaucoup plus riche. Et finalement, c'est encore plus scandaleux d'avoir ces types de situations qui perdurent. 15 000 personnes dans des bidonvilles, 330 000 personnes sans domicile, des enfants à la rue, des femmes enceintes à la rue, des nourrissons à la rue. Mais ça devrait nous réveiller et on aurait besoin d'avoir un
nouvel appel. Mais ça ne nous réveille pas, puisque ce chiffre de 3000 enfants dans la rue, c'est les associations qui l'ont donné, l'UNICEF, en novembre dernier. Voyez, on est le 1er février, alors on consacre cette matinale à cela. Mais tout de même, Pascal Brice, vous qui chapeautez autant d'associations en France, vous avez l'impression que la société, vraiment, pardon de revenir sur cette phrase, mais regarde ailleurs que ce qui nous aurait peut-être réveillé il y a 10, 15, 20 ans ou qui avait réveillé les Français en 54, à l'hiver 54, aujourd'hui, bah, ça passe. Oui, il y a 3000 enfants qui dorment dans la rue, oui.
Vous posez la vraie question. Parce que je pense que là, ce que vous rappelez, cette forme d'accoutumance, est le symptôme de ceux qui travaillent la société française. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où il y a effectivement énormément de choses qui bousculent les gens. On parle des classes moyennes, on va y revenir, bousculer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, les rapports entre les hommes et les femmes, le bouleversement climatique. Les gens sont bousculés. Et dans ce moment-là, la tentation de l'ordre sous des formes très autoritaires, du repli, de la stigmatisation, et d'autant plus que tout ceci est instrumentalisé. C'est-à-dire, regardez, si vous allez mal, si vous n'arrivez plus à finir vos fins de mois alors que vous bossez, c'est parce que vous en avez qui sont au RSA et qui travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Donc, ces fractures de la société.
Mais c'est un discours qu'il a prononcé qui est en attente avec les, enfin, qui est en correspondance avec les attentes des Français quand vous regardez les sondages.
Mais le constat, il est là. Le constat, il est imparable. Et de ce point de vue-là, je partage le constat de M. Attal, de cette crise-là, d'une partie des classes moyennes. Je dis une partie, parce que Manuel Domergue le rappelait tout à l'heure à travers cette question du logement intermédiaire et de la loi SRU. De quelle classe moyenne parle-t-on? Est-ce qu'on parle des classes moyennes qui sont réellement précarisées et qui rejoignent le rang des personnes nombreuses dans les classes populaires et les exclus qui sont dans cette situation-là? Ou de classes moyennes et supérieures qui vont plutôt bien? Mais vous voyez bien que la question fondamentale, à mes yeux, c'est quoi? Ce constat étant posé, il est, à mes yeux, imparable. Les classes moyennes, une partie des classes moyennes, sont en difficulté lourde dans ce pays. Elles bossent et elles n'y arrivent pas. Nous savons tous que c'est un danger mortel pour notre démocratie et la cohésion de notre pays. Mais la question, c'est comment on y répond? On y répond comment? On y répond par la rémunération du travail. On y répond par la maîtrise de l'immigration. On y répond en faisant la démonstration que notre système de solidarité n'est pas un système d'assistanat, mais où il y a un engagement réciproque, vous êtes aidé, vous apportez quelque chose. Et non pas, comme le fait le Premier ministre, dans sa tentation générale, en stigmatisant les pauvres et en particulier les étrangers, et en exonérant la partie des classes moyennes et classes supérieures qui, en réalité, pourrait contribuer plus à une indispensable solidarité. Donc, moi, je demande à chacune et chacun de se regarder aujourd'hui en face. Parce que c'est pas seulement la question du gouvernement. Le gouvernement, on voit bien que maintenant, on n'est plus dans la période qu'on a pu connaître pendant le premier quinquennat. Là, on voit que la dérive est terrible. La bascule est terrible. On l'a vu avec la loi immigration. Mais je demande à chacune et chacun dans ce pays de prendre la mesure de ça. Je sais bien que tout le monde souffre dans ce pays. Mais nous savons, dans les associations, qu'il y a des hommes et des femmes dont la souffrance, elle est là. Elle est réelle. Dans les classes moyennes, il y a des gens qui souffrent. Mais moi, je dis notamment aux possédants de ce pays qu'il faut qu'ils arrêtent cette tentation suicidaire qui est de regarder ailleurs, d'être dans des espèces de replis, y compris en faisant en sorte que la loi sur le logement social soit détricotée au moment où de l'anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre. On se planque dans ces communes où on construit pas de logement social, mais c'est collectivement que nous allons à l'abîme. Donc moi, je redis que ce que nous attendons du gouvernement, de notre part, dans les associations, c'est que le gouvernement prenne la mesure de ce qui se passe, apporte de vraies réponses à la crise d'une partie des classes moyennes, et le fasse dans la conviction qu'un pays est fort, pas quand on tape sur les plus fragiles, mais quand on les accompagne vers l'emploi, vers le logement, vers la santé.
Le rapport de la Fondation Abbé Pierre le dit nettement, la bombe sociale de la crise du logement a explosé. Quant au mal-logement, Manuel Domergue, vous avancez ce chiffre choc. 4 200 000 personnes souffrent de mal-logement ou d'absence de logement personnel en France. Que dit ce chiffre et quelle situation différente recouvre-t-il? Est-ce que vous pouvez nous préciser les choses?
Bien sûr, les 4 millions de personnes qui sont mal logées en France, c'est déjà des personnes qui n'ont pas de logement personnel. Soit elles sont hébergées chez des amis, un oncle, une tante, une vague connaissance. Soit elles sont sans domicile au sens de hébergées par l'État dans des centres d'hébergement d'urgence, des hôtels où la vie est extrêmement dure. Parfois même à la rue ou en bidonville, en habitation de fortune. Et puis pour les personnes qui ont un logement à elles mais de mauvaise qualité, c'est une privation de confort. C'est les souris, le froid, l'insécurité, les accidents domestiques, les incendies parfois. Ça peut être dramatique, et le surpeuplement. Quand il vous manque 2 pièces pour vivre normalement, vous êtes mal logé. Ce qui est très inquiétant, c'est que depuis les années 50, le surpeuplement baissait dans notre pays, parce que les ménages sont plus petits, les logements sont plus confortables, le pays s'enrichit, c'est normal. Depuis 15 ans, à cause de la hausse des prix notamment, le surpeuplement réaugmente en bas de l'échelle pour les personnes, les locataires du parc privé, les personnes pauvres, les bas salaires, etc. Et ça parce qu'il y a une pénurie de logements. Pas partout, hein, mais dans les grandes agglomérations, il y a une pénurie de logements. Et en fait, là où la bombe sociale du logement, qui était une bombe à retardement, a fini par exploser, c'est qu'on voit que la production de logements en général et de logements sociaux en particulier est en chute libre depuis 2 ans. Et ça aura des répercussions encore pendant des années.
On va passer au standard d'Inter où nous appelle Nathalie. Vous êtes là, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, moi j'ai une question. Je connais dans l'immeuble où je suis moi-même locataire un certain nombre d'appartements qui sont vides. Quand je dis vides, ils ne sont pas ni en loués en secondaire ou quoi que ce soit. Ils sont totalement libres. À mon étage, il y a un appartement qui est libre depuis maintenant 6 ans. Et dans la colonne où je suis, il y a 8 normalement appartements. 2 seulement sont occupés. Mmh. Ce sont des appartements qui mesurent 90 mètres carrés. Donc, ma question est, on parle sans arrêt des manques de logements. Comment se fait-il que ces logements puissent être libres ?
De quelle ville nous appelez-vous, Nathalie ?
De Join-les-Pins.
Merci beaucoup pour votre intervention. On va donner la parole à Karim qui nous appelle de Lyon. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Nicolas, bonjour Léa. Bonjour monsieur le maire et monsieur Brice.
On vous écoute.
Voilà, moi j'habite monsieur... à Lyon et donc il y a énormément de tentes installées dans les rues, dans les parcs ici. Moi je suis outré. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement transformer des bureaux en logements ? Parce que là, la construction immobilière est pratiquement à l'arrêt. Et éventuellement, installer mais provisoirement des AGECO en attendant. Des AGECO qui servent pour les ouvriers, pour les chantiers. Et moi, je suis très remonté envers ce gouvernement qui ne répond pas, par exemple, à une lettre de M. Grégory Doucet à Lyon et à d'autres maires récemment. Mmh. Et moi, je l'invite, Monsieur Macron, je l'invite personnellement, s'il m'écoute, de venir constater par lui-même et visiter les grandes villes et se rendre compte que ce n'est plus admissible. Hein. Moi, je suis pas bien quand je vois des gens dormir dehors. Hein.
Merci, Karim, pour votre intervention. Alors, Nathalie nous parlait d'appartements vides et qu'il le reste. Karim, de bureaux vides à transformer éventuellement en lieu d'accueil pour les sans-abri qui dorment sous les tentes d'Algeco. Que répondre à nos auditeurs, Manuel Domergue ?
Effectivement, Nathalie a la raison. C'est extrêmement choquant, quand il y a des personnes qui sont sans logement, de voir qu'il y a des logements qui restent vides pendant des années. En France, on a 3 millions de logements vacants, mais il y en a juste une petite partie de ces 3 millions qui seraient utilisables, parce qu'ils sont vacants depuis des années, comme elle dit, dans des zones où il y a des besoins en logement. Si c'est vacant au milieu des Vosges et que personne n'habite là, c'est pas la peine de les mobiliser. Pour les mobiliser, il y a plusieurs manières. Augmenter la taxe sur les logements vacants, pour que le propriétaire à un moment se dise, ça commence à me coûter cher cette histoire, je vais peut-être le vendre, le mettre en location, faire des travaux. Ensuite, il y a inciter les propriétaires qui auraient peur de mettre en location, par exemple, ou qui n'auraient pas les moyens de faire des travaux, à les confier à l'État, à des associations, à des collectivités, pour qu'ensuite, ils les louent à des personnes en difficulté, avec des aides pour ces propriétaires qui auraient un loyer peut-être un peu modéré par rapport à ce que le marché pourrait offrir, mais un loyer garanti. Souvent, il y a des propriétaires qui ont peur de louer, qui ne savent pas louer, c'est compliqué de louer, il y a des règles, etc. Donc, on peut les rassurer comme ça. Et puis, quand vraiment, il y a une mauvaise volonté, des bâtiments entiers qui sont vides pendant des années, c'est relativement rare quand même, mais ça arrive. Là, la réquisition par l'État doit être un moyen de dernier ressort, mais qui doit être utilisé.
Sur l'appli de France Inter, Eric écrit, question à Pascal Brice, l'État ne peut pas tout, les employeurs et le niveau des salaires sont les premiers responsables.
Mais absolument. Dans cette crise d'une partie des classes moyennes, mais aussi des classes populaires et des travailleurs pauvres, vous savez qu'à Nancy, 25% des gens qui sont à la rue travaillent. 25%. Ce qui conduit une de nos associations à mettre en place un hébergement le temps que les gens puissent aider à trouver un logement. Mais oui, c'est la clé. C'est là-dessus que on doit pouvoir agir, que le gouvernement doit pouvoir agir, que les conventions, les négociations collectives doivent pouvoir agir. C'est l'un des éléments clés, effectivement, de la sortie de la crise d'une partie des classes moyennes. Mais moi, j'ai été frappé par le propos de Karim, qui nous dit « moi, je suis pas bien quand les gens ils dorment dehors ». Vous voyez, je trouve ce propos très important parce qu'il nous dit quoi ? Ce dont nous parlons là, c'est réalité de la pauvreté et de la précarité. C'est d'abord une question de dignité des personnes concernées. Mais c'est une question d'ordre. Moi, je vais vous dire un truc. Nous sommes les défenseurs de l'ordre. Nos associations, les travailleurs sociaux, ce sont ceux qui font en sorte qu'il n'y ait personne dans les rues. Que les gens qui sont en situation d'addiction ne sont pas dans les rues. Et donc, il est temps que, pour des raisons de dignité et d'ordre public, parce que la pulsion d'ordre, les gens sont tellement bousculés que les gens ont besoin d'ordre. Eh bien, nous sommes là, dans nos associations, pour apporter l'ordre. Et le rôle du gouvernement dans cette affaire, c'est quoi ? Et comme le disent Karine et Nathalie, je signale d'ailleurs que Nathalie, elle doit le savoir, elle vit dans un département, parenthèse, Manuel le sait bien, où une commune une commune de toutes les Alpes-Maritimes respecte le critère des 25% de logements sociaux de la loi SRU, que le gouvernement est en train de détricoter bien comme il faut. Donc, une action du gouvernement, nous attendons quoi ? L'urgence, on l'a dit, il y a des gens à la rue, moi je serai à Lyon tout à l'heure, mais une action dans la durée, c'est ça que nous attendons du gouvernement encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? On sait très bien qui est à la rue. Des jeunes sortis d'aide sociale à l'enfance. Des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des travailleurs pauvres, des femmes victimes de violences, des étrangers. On sait très bien pourquoi les gens n'arrivent pas à sortir de l'hébergement d'urgence. Pas de logements sociaux. Et les étrangers, pas de régularisation par le travail ou pas de reconduite quand ils
doivent
l'être.
Pascal Bris, je suis obligée de vous citer ce qu'a dit Gabriel Attal. Lui met en avant, parce qu'à vous écouter... peut-être qu'on a le sentiment qu'il ne fait rien ou qu'ils ne font rien au gouvernement. Il a mis en avant à l'Assemblée nationale les 550 000 personnes sorties du sans-abrisme, dit-il, le doublement du parc de l'hébergement d'urgence porté à 200 000 places, le déblocage récent de 120 millions d'euros supplémentaires face à l'épisode de grand froid. C'est rien, ça ?
Bien sûr que non. Il faut redire, vous avez raison, il faut resituer les choses. On est dans vous disiez tout à l'heure justement, 14% de pauvres en France. Si on n'avait pas tous les éléments de redistribution, ce serait 22%. Nous sommes dans un pays protecteur. Et le gouvernement fait et agit. Mais la difficulté, c'est quoi dans la période ? C'est que d'abord, nous sommes dans un changement de ton et d'approche de la part de ce gouvernement, dont j'espère que ça ne durera pas et qu'il se ressaisira. On a affaire, depuis quelques mois, à un matraquage sur le thème « les classes moyennes », en confondant tout le monde. Et sur le
parce
thème,
que les classes moyennes vont au Rassemblement National, Pascal Bris, vous le savez. Pourquoi il vient ce
sais,
discours
et c'est
parce
justement
que
parce que
le Rassemblement National est à 30%.
Parce que vous croyez, est-ce qu'il va empêcher qui que ce soit en entretenant ce climat sur le thème, c'est les pauvres, les étrangers, vous pensez qu'il va lutter contre quoi que ce soit ? Moi, je pense qu'il faut lutter. Je ne suis pas dans le déni, contrairement à beaucoup de gens. Je ne suis pas dans le déni. La crise des classes moyennes, elle est là. Elle est périlleuse pour notre démocratie. Il faut maîtriser l'immigration. Il faut faire en sorte que les gens se convainquent qu'il n'y a pas d'assistanat dans ce pays. Il faut rémunérer le travail. Mais c'est pas en stigmatisant les pauvres et les précaires et les étrangers qu'on va y arriver.
Manuel Demers, vous attendez un ministre du Logement ?
Ce serait bien quand même.
C'est
un petit sujet, donc ce serait bien qu'on ait un ministre qui change pas tous les 6 mois éventuellement. Et en fait, le vrai problème, c'est un ministre qui ait du poids politique, qui gagne des arbitrages. Aujourd'hui, la politique du logement, elle est dirigée à Bercy, avec ce qu'on voit, c'est que l'effort public pour le logement n'a jamais été aussi bas, en part de richesse depuis plusieurs décennies. Et la politique du logement, elle est aussi dirigée en vrai au ministère de l'Intérieur avec une approche très répressive. On a un record d'expulsion locative, d'expulsion de bidonville. Et si les personnes qui sont à la rue y sont ou en hébergement d'urgence, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas accès à la régularisation. Donc il faut qu'il y ait un vrai ministère du logement qui s'impose et qui impose les besoins, les droits des personnes mal logées.
Pascal Bris ?
Simplement dire au Premier ministre qu'il souhaite désmicardiser, débureaucratiser, déverrouiller. Alors moi j'ai un beau chantier à lui proposer immédiat, c'est faire tout ça pour 1 500 000 travailleurs sociaux, travailleurs sociales dans ce pays. Vous avez dans les associations, ils sont tous au SMIC. Ils passent leur temps, au lieu de s'occuper des gens, et Dieu sait si c'est indispensable, à remplir des travaux Excel et à faire des rapports. Donc là, s'il veut déverrouiller, débureaucratiser, désmicardiser, moi, j'ai un superbe chantier et la fédération est à sa disposition pour
le message est passé.
Pour le faire.
Merci à tous les deux, Manuel Demergue, Pascal Bris, d'avoir été au micro d'Inter ce matin.